Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. D'anciens seigneurs de guerre dépêchés en Ituri pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes sont toujours entre les mains des rebelles de la CODECO. Rien n'a filtré des négociations en cours pour obtenir leur libération. Flambée de rougeole dans les Kwango, 700 cas sont documentés depuis le début de l'année. Cette maladie affecte les zones de santé de Popokabaka, Kitenda et Panzi où la prise en charge et le manque d'étrants posent problème. Notre invité, c'est Chobert Agenonga. Ce spécialiste des questions de sécurité à l'université de Kisangani analyse la stratégie du gouvernement congolais qui utilise, selon lui, la carotte et le bâton en Ituri à l'encontre des miliciens de la CODECO. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en nom de Mimi Kindou. Les membres de la task force d'anciens seigneurs de guerre dépêchés en Ituri par le président Félix Tshisekedi pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes sont toujours entre les mains des rebelles de la CODECO. Aucune information n'a filtré jusqu'ici sur les négociations en cours pour leur libération. Ces miliciens font monter les enchères en rapport avec leurs revendications. C'est ce que nous explique à Bounia Isaac Remoyope.
48 heures après la prise en otage des 8 membres de la task force, la situation ne semble pas évoluer. Les otages sont toujours gardés au bastion de la milice CODECO vers Gouti, environ 60 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Mais selon nos informations, les tractations se poursuivent secrètement pour que ces otages recouvrent la liberté. Les notables et les autorités coutumières des différentes communautés locales sont également impliqués pour tenter de persuader ces hommes armés de revenir à la raison en privilégiant la paix. Certaines sources qui ont requis l'anonymat révèlent que le gouvernement de la République est également préoccupé par cette situation pour trouver une voie de sortie. Une première bonne nouvelle cependant, tous les otages sont bel et bien en vie et ne sont pas maltraités par leurs ravisseurs. Pour le moment, tous les regards en Ituri sont tournés vers Djougou pour attendre l'issue finale de cette prise d'otage. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, plusieurs cas d'abus et de violations des droits de l'homme ont été enregistrés dans la ville et le territoire de Beni du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. C'est le résultat d'un rapport de monitoring des incidents et alertes communautaires que vient de publier un consortium des deux ONG basées à Beni, au Nord Kivu. Il s'agit notamment de l'action globale intégrale pour la réhabilitation et du Bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales à RDC. Les précisions avec le coordonnateur du Bureau, Papi Kasereka, est au micro d'André Kitenge.
Au cours de la période sous examen, par exemple, 30 cas d'incursion d'armes armées ont été enregistrés, essentiellement des EDF, dans les différentes agglomérations de la ville de Beni territoriale, faisant état de 112 personnes ont été tuées. Mais aussi, on peut retenir, déjà, il y a aussi 8 personnes ont été kidnappées, 36 personnes ont été blessées, 35 maisons ont été et kiosques ont été incendiées, et 33 maisons ont été visitées ou cambriolées, surtout au niveau urbain ici, en ville de Beni par des hommes à main armée. Mais aussi, 3 camions ont été brûlés, 8 motos incendiées et enfin, une femme a été violée. Nous faisons aussi un travail déjà de plaidoyer auprès des autorités. Nous recommandons vivement aux autorités étatiques de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour restaurer non seulement la sécurité sur l'ensemble du territoire de Beni et de la ville, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État. De redoubler encore plus d'efforts, surtout en ville, que les autorités étatiques arrivent à sécuriser les personnes et leurs biens.
Et puis un corps sans vie a été retrouvé flottant ce vendredi matin sur les eaux du lac Kivu vers Kitoukou à l'ouest de la ville de Goma. Le président du conseil communal parle du 4e corps repêché sur le lac Kivu en l'espace d'un mois au quartier Keshero et Lac Vert. Il plaide par conséquent pour une enquête afin de retrouver et punir les auteurs de ces crimes. Jules Ngeleza a été joint par Mathieu Ilunga Chamboui.
Une situation qui devient beaucoup plus inquiétante parce que dans un intervalle de un mois comme ça, 4 corps sans vie qui viennent d'être découverts vers cet endroit-là. Et la population se pose beaucoup de questions et ce qui justifie le fait que l'insécurité continue à battre les corps vers cet endroit-là. Il y a lieu pour nous que nous puissions demander à la population d'être vigilante. ambulante, mais aussi aux autorités qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité à toute la population, de bien redoubler beaucoup plus d'efforts et pouvoir mettre la main sur les auteurs de ces actes macabres au niveau de cette partie-là de Kitou vers ces endroits.
Nord Kivu encore, les sous-effectifs des magistrats militaires et les inspecteurs judiciaires ont un impact négatif ce jour-ci sur le bon fonctionnement de la justice. C'est suite à la suspension des juridictions civiles en cette période de l'état de siège. Conséquence, une pléthore de détenus est constatée dans les maisons d'arrêt. Un reportage de Gabriel Ouamenia rendu par Bernard Denyangui.
Au parquet militaire de Goma, ainsi qu'à l'auditorat de garnison et l'auditorat supérieur, on ne compte qu'une trentaine de magistrats militaires et inspecteurs judiciaires. C'est ce qui explique, d'après le bâtonnier de l'ordre des avocats du Nord Kivu, la lenteur des procédures judiciaires, Maître Abel Ntumba.
Le sous-effectif a une conséquence directe sur le droit de la défense, sur le droit à la liberté, le droit à un procès équitable, et cela ne permet pas de dire que la justice est administrée correctement lorsqu'il y a sous-effectif de magistrats.
Le président de la société civile provinciale estime quant à lui que le nombre de magistrats militaires devrait être augmenté ou restaurer entièrement les compétences des juridictions civiles. John Banyene.
Si vous arrivez aujourd'hui au niveau de l'auditorat militaire ici à Goma, vous allez voir que là, il y a pareil même. Donc, les magistrats sont débordés. Ça augmente le nombre de magistrats au niveau de Goma, même au niveau de chaque territoire et de d'autres villes. Et il fallait qu'on ouvre encore les juridictions civiles.
Rappelons que les mesures d'application de l'état de siège avaient transféré toutes les compétences pénales aux juridictions militaires, laissant seulement les dossiers non répressifs aux juridictions civiles. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, en marge du sommet de l'Union européenne et l'Union africaine qui se tient depuis jeudi à Bruxelles, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé-Kyenge a visité le Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren. Il y a été conduit par son homologue belge Alexandre De Croo. Sur place, le Premier ministre congolais a reçu un document reprenant la liste des patrimoines venus de la RDC. À l'issue de la visite, il a indiqué à la presse que la remise de ce document est une étape importante dans le processus de rapatriement des œuvres d'art congolaises. On l'écoute.
Ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, cela a été mentionné par monsieur le secrétaire d'État, lui-même qui était là, mais nous avions aussi madame Myriam Kittir, nous avions aussi monsieur Guido Kressels qui était avec nous, qui ont pu visiter le musée de Kinshasa et qui ont eu des échanges avec tous les experts justement dans ce secteur en ce qui concerne non seulement les pièces à considérer, mais aussi les conditions, parce que ça c'était aussi un fait très important, les conditions dans lesquelles bien sûr ce patrimoine serait conservé une fois qu'il serait rapatrié au Congo, et puis les échanges et ça l'a été mentionné ici, parce que ici c'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte et de comment est-ce que les choses devraient se faire.
À cette même occasion, le Premier ministre congolais a dévoilé hier les priorités de la RDC aux discussions qui s'achèvent à Bruxelles ce vendredi. Jean-Michel Samalou-Kondé dans cet extrait choisi par Daniel Tamizoni.
En ce qui concerne le sommet, cela a été mentionné ici, beaucoup d'échanges qui se font entre l'Union européenne et l'Union africaine, avec pour nous des questions essentielles, et vous avez bien fait de le mentionner, prioritairement des questions de paix et de sécurité, parce que pour le moment, en République démocratique du Congo, en proie à toutes ces questions, c'est une occasion pour nous d'en parler, ici dans le cadre de ce sommet, mais aussi ces questions de santé. Moi, j'accueille, mais vraiment à bras ouverts, mais c'est quelque chose que justement, nous pensons que dans le cadre des relations que nous avons déjà, notamment d'ailleurs avec notre centre de recherche qui est l'INRB, il pourrait y avoir des possibilités en termes de production de vaccins, au vu non seulement de notre position géographique, mais de notre démographie, mais au-delà de ça, toutes les pandémies auxquelles nous faisons face. Donc cette collaboration serait vraiment la bienvenue. Nous l'attendons le plus tôt. Bien sûr, d'autres questions vont être mises en discussion dans le cadre de notre collaboration, notamment en ce qui concerne, comme je l'ai dit, le domaine sécuritaire, mais aussi dans nos finances publiques et tous les échanges que nous avons.
Santé à présent avec la flambée de cas de rougeole dans le Kwango. Plus de 700 cas sont enregistrés dans cette province depuis le début de l'année. Le médecin épidémiologiste affirme à Radio Kapi que cette maladie affecte principalement les zones de santé de Popokabaka, Kitenda et Panzi. Docteur François Mwikisenda fait remarquer que la prise en charge des cas documentés et le manque d'intrants pose problème. C'est ce que nous explique à Bandunduville Irène Boma.
Selon ces médecins épidémiologistes de la division provinciale de la santé du Kwango, la zone de santé de Kitenda est la plus touchée avec plus de 730 cas, suivie de Popokabaka qui a enregistré 24 cas et celle de Panzi vient en dernier lieu avec 4 cas. À l'en croire, l'insuffisance des intrants ne facilite pas la prise en charge de ces nombreux cas de rougeole au Kwango. Ils sollicitent l'appui des autorités et des partenaires afin de sauver la vie des enfants de cette partie du pays. Docteur François Mwakisenda.
Par rapport d'abord à la zone de santé de Kitenda où il y a plus de cas, il y a l'équipe des MSF, les Médecins sans frontières qui sont partis là-bas riposter contre la rougeole. Ils ont laissé un kit là-bas pour la prise en charge. Malheureusement, vous savez que les zones ne sont pas appuyées. Dès que ce kit-là s'est terminé, c'est fini. Ils ne seront pas obligés de prendre en charge les enfants. Les autres zones ne sont même pas prises en charge. Il n'y a aucun partenaire qui appuie la riposte contre la rougeole. Raison pour laquelle c'est rêvé d'organiser campagne d'activité de masse et vacciner tous les enfants contre la rougeole. Mais ailleurs, il n'y a pas des intrants. Le gouvernement pouvait nous doter de médicaments pour lutter contre cette maladie.
Docteur François Mwakisenda appelle les parents de ces coins à respecter les calendriers vaccinaux de leurs enfants pour les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
On enchaîne avec Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où les enfants reporters constatent avec amertume la vente de plumpectes dans la ville alors qu'ils sont destinés aux enfants malnutris. Il y a 2 ans, en effet, le gouverneur de province avait signé un arrêté interdisant cette pratique. Pendant que dans les hôpitaux, il y a encore cet aliment, l'encadreur des enfants reporters affirme qu'il est visible dans des écoles, des pharmacies et même dans les marchés. Mireille Lola le dit à François Kadima.
Que ces plumpinettes sont conçues pour les enfants qui souffrent de la malnutrition. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Tant que nous continuerons d'en acheter, nous donnons la force aux gens qui volent dans des hôpitaux, dans des centres de santé, de continuer à les faire. Déjà, nous ne connaissons pas le vrai circuit, comment ça s'est fait que ces personnes soient en possession des plumpinettes. Et donc, nous demandons en tout cas à tout le monde, déjà les enfants reporters ont lancé cet appel à tout le monde, de dénoncer en tout cas. Parce que lorsqu'on ne dénonce pas des cas comme ça, nous sommes complices. Alors, selon ce que nous avons entendu dire de médecins, la consommation de plumpinettes par les personnes qui sont en bonne santé a beaucoup de conséquences, notamment de problèmes cardiaques à la longue. Parce qu'on en mange, on s'est dit, mais c'est bon, on en consomme, c'est bien. Mais à la longue, il y a des répercussions. Il y a des gens maintenant qui ont des problèmes cardiaques, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, mais qui n'arrivent pas à se rappeler qu'à une époque, ils ont consommé beaucoup de plumpinettes.
Actualité internationale.
Les autorités maliennes de transition ont demandé ce vendredi à la France de retirer sans délai les soldats des opérations Barkhane et Takuba du Mali. Cette requête est formulée au lendemain de l'annonce par le président français Emmanuel Macron et ses principaux partenaires d'un retrait coordonné sur les prochains mois. En Guinée, pendant ces temps, le sort de l'ancien président Alpha Condé inquiète ses collaborateurs. C'est depuis un mois, en effet, qu'il est parti suivre des soins médicaux aux Émirats Arabes Unis. Pour mémoire, renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé avait reçu du président de la transition, Mamadi Doumbouya, l'autorisation de quitter le pays pour des raisons humanitaires. Et puis les États-Unis ont approuvé une importante vente potentiel à la Pologne de 250 chars d'assaut pour un montant de 6 milliards de dollars américains, a annoncé ce vendredi le département d'État américain en pleine tension entre les Occidentaux et la Russie autour de la crise ukrainienne. Cette vente doit être cependant approuvée par le Congrès américain pour ainsi permettre à la Pologne de faire face aux menaces actuelles et futures en Europe.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Chaubert Aguenonga, ce spécialiste des questions de sécurité à l'université de Kisangani dans la province de la Tchopo, analyse la stratégie du gouvernement congolais qui utilise, selon lui, la carotte et le bâton en Ituri à l'encontre des miliciens de la Codeco. Il s'entretient avec Isaac Remoyope.
Professeur Chaubert Aguenonga, bonjour.
Bonjour.
Huit membres de la Task Force délégation des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par les chefs de l'État pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes, sont pris en otage depuis mercredi par des miliciens de la Codeco. Comment analysez-vous cette situation?
Bien, il faut souligner que les huit membres de la Task Force ont été enlevés pendant qu'ils étaient en mission de sensibilisation et dans le nord de la ville de Bounia, à Bambou, précisément dans le groupement Yaba. C'est survenu pendant que les membres de cette délégation étaient en pleine sensibilisation et du coup, un hélicoptère de CSG a commencé à lancer des frappes dans la région. C'est ce qui a provoqué cet incident. Il y a véritablement une maladresse ou un malattendu au niveau même des autorités qui sont en charge de la gestion sécuritaire en Ituri, parce qu'il est tout à fait impensable que on sensibilise les gens en même temps. Et on en voit les hélicoptères venir bombarder la région même où cette sensibilisation intervient donc vraisemblablement. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas véritablement une approche cohérente, hein, il n'y a pas une coordination efficace des actions dans cette partie de l'Ituri.
Si cela est vrai, pensez-vous que cette approche du gouvernement soit bonne pour régler les problèmes de l'insécurité en Ituri?
Alors, il y a deux choses importantes qu'il faut tenir. La première est qu'il y a une incohérence d'approche sécuritaire dans la province de l'Ituri. Et cette incohérence témoigne d'une absence flagrante de coordination des actions susceptibles de ramener la paix en Ituri. On ne peut pas vouloir à la fois la négociation et recourir aux moyens coercitifs. Donc, les deux approches sont incompatibles. Ou bien on recourt à des pressions militaires à ce moment-là et on ferme la porte à la négociation. Ou bien on prend la négociation à ce moment, le parti doit décréter le cessez-le-feu, une trêve, voulait dire.
Et alors, la Codeco conditionne la libération de ses otages par le respect de leur cahier des charges. Certains parlent des chantages. Vous en pensez quoi?
Oui, c'est un chantage pur et simple parce que l'on ne peut pas retenir les membres de la task force qui sont allés sensibiliser les miliciens pour conditionner leur libération par la levée de l'état de siège ou par le départ du gouverneur militaire. Mais là aussi, ça montre quelque part qu'il y a une absence flagrante de volonté de négocier au niveau des Codeco avec les membres de la task force. Là, une fois de plus, je m'aperçois que l'approche du départ était déjà biaisée, donc les membres de la task force devraient préalablement accorder le violon avec les combattants des Codeco, s'attendre avant de descendre sur le terrain. Donc, c'est cela, justement. Donc, je m'aperçois que on est en train, justement, de voler de cohérence en incohérence. Il n'y a pas une approche, il n'y a pas une planification efficace. Donc, il y a une impréparation totale, absolue.
Pour terminer, quelle peut être la voie de sortie pour le gouvernement dans la situation actuelle pour que l'Ituri recouvre une paix durable?
L'approche sécuritaire à l'œuvre est totalement à repenser. Il n'y a pas une approche cohérente dans la mesure où, évidemment, les Codeco sont en train de profiter de failles, de faiblesses même de l'approche sécuritaire du gouvernement pour narguer les institutions. Il faut une montée en puissance de l'armée. C'est très important. En vue de dissuader tous ceux qui sont entrés et semer la terreur et la désolation dans la région. Mais si une négociation y a, cela ne doit pas résulter de l'échec des actions militaires. Cela donnerait l'impression du fait que le gouvernement a capitulé. Donc, il est plus qu'important pour que le gouvernement reprenne totalement l'approche à l'œuvre, renforcer le moyen militaire, permettre aux militaires d'être le plus dissuasif possible pour contraindre les miliciens au dialogue, pour contraindre les miliciens à la négociation. Je pense que c'est de cette manière qu'il faudrait procéder. Parce que si on ne le fait pas de la sorte, l'impression qu'on va donner, c'est que le gouvernement a capitulé devant une milice qui n'a ni territoire ni population. Et à ce moment, les miliciens ne feront que monter les enchères comme ils sont en train de le faire maintenant.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Chobert Aguenonga, ce spécialiste des questions de sécurité à l'université de Kisangani, est interviewé par Isaac Remoyope. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Ce journal a été préparé par Pierrot Elameji et Noëlla Luzitu Kabambi, que je remercie infiniment. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.